السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد سورة الفاتحة est la sourate la plus importante du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le premier chapitre du Coran. C'est comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Nous t'avons certes donné les sept répétés, ainsi que le Coran sublime. Et ce qui est voulu par les sept répétés, ce sont les sept versets de suratul Fatiha. Et ce qui a été appelé le Coran sublime, c'est la sourate al-Fatiha elle-même. Elle est ainsi, car les sens contenus dans cette sourate sont les plus importants. Ce sont les sens les plus importants. Et nous nous sommes arrêtés, après avoir vu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, où l'on voyait qu'il s'agissait ici de proclamer toutes les louanges à Allah, en évoquant toutes ses qualités, toute sa splendeur, toute sa perfection, subhanahu wa ta'ala, de faire cela avec un cœur épris d'amour pour lui, azza wa jal, mais aussi de vénération. Allah est loué pour deux raisons, comme nous l'avions vu, pour sa perfection, la perfection de ses noms, de ses attributs et de ses actions, tout comme il est loué pour sa bienfaisance à l'égard de son serviteur. Et pour toutes ces raisons, il est légiféré de dire « Alhamdulillah ». Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui créa l'homme, les djinns, les anges, les animaux et toutes les autres créatures, qu'il s'agisse de créatures vivantes et même d'objets inertes. Pour tout cela, Allah est le seul à mériter toutes les louanges, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est décrit par cet attribut qui est la miséricorde, cette miséricorde qui se divise en deux, générale, par laquelle il a atteint toutes ses créatures, qu'il s'agisse de croyants ou non, lorsqu'il leur donna et octroya la subsistance, lorsqu'il les créa, lorsqu'il leur facilita leurs entreprises mondaines. C'est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est général, dédié à tout le monde. Et il y a une miséricorde d'Allah qui est particulière quand Allah subhanahu wa ta'ala guide son serviteur, le rapproche de lui, lui accorde une issue favorable lorsqu'il fait face à des peines, des difficultés et des angoisses, subhanahu wa ta'ala. Après tout cela, on pourrait remarquer également que lorsque l'on dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est une manière d'exprimer notre amour pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quand on dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », c'est une manière d'exprimer notre espoir envers la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puis quand on dit « Maliki Yawm al-Din », le maître du jour de la résurrection, ce grand jour terrible où les gens seront avilis, rabaissés devant Allah pour constater son unicité, sa puissance, sa grandeur, le jour où il dressera les comptes, subhanahu wa ta'ala. Cela fait susciter dans le cœur du croyant la crainte à l'idée de rencontrer Allah et ne pas avoir assez de provisions pour passer l'épreuve et se voir épargné du châtiment. L'on voit donc ces trois choses que sont l'amour, l'espoir et la crainte, l'amour d'Allah plus que tout, l'espoir en sa miséricorde et la crainte de sa menace et de son châtiment. Et ces trois choses-là représentent les moteurs de l'adoration. Chaque musulman et croyant adorant Allah doit baser ses actions, ses paroles, ses convictions en matière de religion sur l'amour qu'il porte pour Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son cœur, sur l'espoir qu'il a en sa miséricorde et sur la crainte qu'il a de sa menace et de son châtiment. C'est ainsi qu'est basée l'adoration. Et c'est pour cette raison que va venir juste après ce qui va faire l'objet de cette intervention, à savoir « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Ce noble verset a une signification puissante. Allah Azza wa Jal nous ordonne de dire « Iyyaka na'budu », c'est toi seul que nous adorons, « wa iyyaka nasta'in », et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, subhanahu wa ta'ala. Plusieurs choses sont à remarquer ici. La première, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit « na'buduk », nous t'adorons. Mais plutôt, la forme de la phrase est la suivante, « Iyaka na'bud », c'est toi que nous adorons. Ainsi, l'adorer, Allah Azza wa Jal, a été évoqué avant le verbe de l'adoration. C'est toi que nous adorons. « Iyaka na'bud ». Vous devez savoir que dans le livre d'Allah Azza wa Jal, comme l'ont énoncé les savants de l'islam ayant expliqué le Coran, al-Tafsir, lorsque dans une phrase, il y a une chose qui prend une place avant celle qu'elle devait prendre initialement, comme c'est le cas de ce verset, initialement on dirait « na'buduka », nous t'adorons. Mais là, on a inversé ou alors on a devancé une chose à l'autre. Ce qui a été devancé, c'est l'adorer, à savoir Allah. Il a été devancé au verbe de l'adoration. C'est toi que nous adorons. Et le but de cela, c'est de montrer qu'Allah Azza wa Jal se réserve le droit à l'adoration. Quand on dit « Iyaka na'bud », c'est beaucoup plus fort que de dire « Na'buduk », nous t'adorons. Car ce qui est voulu en réalité, c'est de dire « C'est toi seul que nous adorons ». La na'budu illa iyyak. Nul autre que toi n'est adoré pour nous. C'est exactement le sens de la parole la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ce sens si important, si lourd, si poignant est le but de l'envoi de tous les messagers. Allah Azza wa Jal a dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous du tagout. » Et ce mot-là, le tagout, de manière générale, signifie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ainsi, tous les messagers n'ont été envoyés que pour appeler les gens à vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en garde contre toute forme de culte voué à un autre que son ayant droit, Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, l'adoration en réalité est le premier verbe que l'on retrouve dans le Coran. Dans ce verset justement, « Iyyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons. Le premier verbe que tu retrouves en ouvrant le Coran et en le lisant du début à sa fin, c'est le verbe « adorer ». Et pas seulement. L'adoration, c'est le premier ordre donné par Allah dans le Coran. Dans le verset 21 de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal a dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum »« Ô vous les gens, adorez votre Seigneur ». Tous les livres ont été révélés pour appeler les gens à adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq, fa'budillaha mukhlisan lahuddin » Nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant le culte exclusif. L'adoration d'Allah est la première chose à laquelle les gens doivent être appelés. Car c'est la base de l'acceptation des actions. La personne qui ne serait pas convaincue en l'unicité d'Allah, dans le droit à l'adoration, qui voudrait faire des actions, verrait cette dernière rejetée, car elle n'a pas la clé validant l'acceptation. Pour cette raison, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya le noble compagnon, l'un des plus connaisseurs de sa communauté, Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée au Yémen, pour prêcher à l'islam, il lui dit « Innaka ta'ti qawman ahla kitab » Tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre. Il informe de la situation de ces gens-là afin qu'ils se préparent. Innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayh. Que la première chose à laquelle tu les appelles. Shahadata an la ilaha illallah. Qu'ils attestent que nul autre qu'Allah ne mérite réellement l'adoration. Dans une variante authentique, an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah, qu'ils expriment leur connaissance qu'ils ont en l'unicité d'Allah, azza wa jal. L'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Dhariyat, le verset 52 ou 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc la base de tout que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, tout ce qui a été mis à notre disposition par Allah, tout ce qu'Allah nous a assujetti, tout ce qu'il nous a octroyé, tout ce qu'il nous a accordé, il ne l'a fait que pour que l'on s'en serve pour concrétiser le but de notre existence. Après avoir entendu et compris tout cela, convient-il à l'un d'entre les gens de vouer une quelconque forme de culte à un autre qu'Allah, que ce soit en implorant, en sollicitant, en demandant à un autre qu'Allah ce qu'Allah seul est capable d'accorder, comme la guérison, comme la protection, comme la richesse, comme toutes ces choses qui ne doivent être demandées qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est étonnant d'entendre une personne dire « Iyyaka na'bud » pour contredire le sens de ce verset. Cela est l'indice de l'incompréhension totale dans laquelle beaucoup de gens malheureusement sont plongés. Il incombe aux musulmans de comprendre le but de l'islam est de comprendre Surat al-Fatiha. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous enseigne de dire Wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. L'aide et la demande d'aide d'Allah Azza wa Jal en soi est une adoration. Elle fait donc partie de l'une des composantes de l'adoration. Pourquoi alors? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, après avoir cité cette généralité qu'est l'adoration, en disant « Iyyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons, et la demande d'aide fait partie de l'adoration d'Allah, pourquoi avoir cité plus spécifiquement « Wa iyyaka nasta'in » et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Il en est ainsi, car en réalité, on ne pourra adorer Allah tabaraka wa ta'ala que s'il nous offre son aide. Sans son aide, il sera impossible à l'un d'entre nous d'adorer Allah azza wa jal. Et la connaissance, le fait d'être versé dans le savoir, ne sera absolument pas suffisant si Allah ne nous accorde pas son aide. Ce n'est pas pour rien que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, disait à chaque matin, et à chaque soir, ce que tout musulman doit répéter et apprendre, parmi les invocations à répéter le matin et le soir, « Ya Hayyu, Ya Qayyum, ô toi, le vivant à la vie parfaite, toi qui subsistes par lui-même et par lequel tout subsiste, « Bi rahmatika astaghith, j'en appelle à ta miséricorde, porte-moi secours par ta miséricorde, Aslih li sha'ni kulla, réforme toutes mes affaires. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn, et ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'aide d'Allah à un point tel qu'il le supplie de ne jamais le laisser à sa personne, ne serait-ce que le temps d'ouvrir et de fermer l'œil. Car il sait, de par la connaissance qu'il a de qui est Allah Azza wa Jal, qu'en réalité tout ce que l'on peut faire de bien n'a été fait que par l'aide d'Allah. Et tout le mal dont on a été épargné, cela n'est le fruit que de l'aide d'Allah. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » Et tu n'as pas lancé quand tu lançais, mais c'est Allah qui a lancé. Ceci, lors d'une des batailles dans lesquelles étaient opposés le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons à Quraysh et leurs suppôts et leurs comparses, le prophète alayhi salatu wassalam a lancé au visage de certains d'entre eux et les a atteints. Et Allah Azza wa Jal a voulu lui montrer en l'éduquant qu'en réalité, tu n'as pu le faire que parce qu'Allah te l'a accordé. Ce n'est pas ta force, ta motivation, mais c'est l'aide d'Allah Azza wa Jal. Voilà le sens de Iyyaka Nasta'in. C'est à toi seul que nous demandons l'aide. Tu ne demandes pas l'aide à ta personne, à ton intelligence, à tes moyens physiques, financiers, à tes capacités, à ton temps libre, ta motivation, tout un tas de choses qui ne sont que des causes. Mais c'est plutôt à Allah que tu demandes l'aide. Car si tu réunissais toutes ces causes apparentes dont nous venons de parler, et bien d'autres encore, tu ne pourrais concrétiser un quelconque but si Allah ne t'accorderait pas son aide, subhanahu wa ta'ala. La demande d'aide d'Allah est quelque chose d'extrêmement importante. Et elle signifie que l'on place notre confiance en Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place toute ta confiance en Allah, le vivant qui ne meurt pas. Après avoir dit cela, Allah azza wa jal nous enseigne maintenant de lui formuler très clairement notre demande qui en réalité est la demande la plus éminente, la plus importante, une demande indispensable. Si Allah ne nous l'accordait pas, nous serions voués à l'échec et à la perte. Quelle est-elle ? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ghayr al-maghdubi alayhim. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, waladdallin, non plus celui des égarés. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. C'est une invocation explicite, une demande on ne peut plus claire que le croyant doit formuler à Allah Azza wa Jal. C'est le fait de demander à Allah de lui accorder ce don immense qu'est la guider. Tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Le fait de demander à Allah de nous accorder la guider et la connaissance, c'est quelque chose d'indispensable. Le besoin de l'un d'entre nous, le besoin qu'a l'un d'entre nous de la guider est bien plus grand encore, bien plus fort que le besoin qu'il aurait de boire et de manger. Sans boire et manger, le corps va mourir. Sans guider, le cœur va périr. Et quand le cœur a péri, c'est le feu qui l'attend. C'est la colère divine qui l'attend. On ne peut se passer de la guider d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à chaque instant. L'illustre savant, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, a dit ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. Pour ces raisons, l'invocation la plus immense, la plus utile, c'est l'invocation contenue dans la sourate Al-Fatiha, lorsque l'on dit « Ihdina sirat al-mustaqim » jusqu'à la fin de ces versets de sourate Al-Fatiha. Elle consiste à demander à Allah tabaraka wa ta'ala l'aide, la guidance, le fait de guider le serviteur dans l'obéissance à Allah et dans le délaissement des péchés. Tout ceci nécessite une guidance d'Allah Azza wa Jal. Et aussi le fait de ne pas être touché d'un quelconque mal, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Le serviteur ne pourra jamais se passer de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'Allah, celui qui nous a créés, connaît notre état, il connaît nos besoins, il a fait en sorte que nous devions réciter sourate Al-Fatiha à chaque prière. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab » Nulle prière, c'est-à-dire nulle prière valable pour quiconque ne récite pas sourate Al-Fatiha. Quant à la personne qui, par exemple, vient d'embrasser l'islam ou une personne qui n'est pas capable de réciter, elle a une excuse, le temps d'apprendre à réciter sourate Al-Fatiha et le faire. En attendant, elle devra, à la place de réciter sourate Al-Fatiha, dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Voyez au combien Allah est miséricordieux et nous facilite toutes les voies menant au bien. Subhanahu wa ta'ala. La droiture, la guidée, est indispensable. Personne ne peut s'en passer. Allah Azza wa Jal a décrit son chemin comme étant « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». As-sirat, c'est une voie qui est claire, ne contenant aucune ambiguïté. Tel est l'islam. C'est une voie qui est claire. Al-mustaqim, une voie qui est droite, ne contenant aucune tortuosité. Une voie qui n'est pas sinueuse, qui n'est pas égarante ni déviante. Une voie qui est claire, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette voie-là n'est autre que celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu récites sourate Al-Fatiha, tu es en réalité en train d'implorer Allah de te guider de manière constante dans la voie et vers la voie empruntée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons après lui, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa jami'u as-sahabati al-kiram ridwanullahi alayhim. L'ensemble des compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute action qui viendrait contredire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses nobles compagnons, alors cette action ne relève en aucun cas du droit chemin. Au contraire, elle sera rejetée par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Quiconque fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, elle sera rejetée. Allah ne l'acceptera pas, subhanahu wa ta'ala, car elle ne relève pas du droit chemin d'Allah, as-sirat al-mustaqim, dans lequel le musulman demande à Allah de le guider. Il ne convient donc pas, après demander à Allah la guider dans le droit chemin, de changer les cultes et de changer la manière d'adorer Allah pour choisir une qui n'a pas été prescrite ni par Allah Azza wa Jal, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir demandé à Allah tabaraka wa ta'ala la guider dans ce droit chemin, on demande à Allah de ne pas nous laisser aller vers l'un des deux chemins suivants. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. وَلَا الضَّالِينَ non plus celui des égarés. Mais qui sont ces gens qui ont encouru la colère d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. Il s'agit de ceux qui ont pris connaissance des ordres d'Allah, mais les ont délaissés, des interdits d'Allah, mais les ont commis. Ceux-là ont encouru la colère d'Allah, puisqu'ils savent, ce qu'ils encourent. Allah est en colère contre eux, parce qu'ils lui désobéissent sciemment. Il ne s'agit pas d'une erreur, d'un oubli, d'une méconnaissance, d'une ignorance, d'une ambiguïté. Au contraire, ils savent qu'ils désobéissent à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pour cela, ceux qui, par exemple, s'adonnent à la sorcellerie, qu'Allah nous en préserve, et vous aussi. Allah Azza wa Jal a dit de ces gens-là qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Ces gens-là sont parmi les pires ennemis d'Allah. Allah a dit d'eux dans Surat al-Baqarah, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils ont su de manière certaine que celui qui s'y adonne, c'est-à-dire la sorcellerie, n'obtiendra aucune part dans l'au-delà. Car il a mécru en Allah par cet acte si odieux qu'est la sorcellerie, qu'Allah nous en préserve. De la même manière, toute action faite par le serviteur relevant des péchés de la désobéissance, qui a été faite sciemment à la hauteur de cette action, de ce péché, la personne encourt une colère d'Allah proportionnelle. Il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et d'abandonner le jeûne, d'abandonner la prière, d'abandonner le fait de s'acquitter de l'aumône légale prescrite par Allah de manière annuelle avec des conditions bien sûr bien déterminées qui doivent être connues et étudiées. Il ne convient pas non plus de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » puis de laisser la saison du pèlerinage, le grand pèlerinage à la Mecque, passer devant son nez sans s'y rendre, alors que l'un d'entre nous aurait les moyens physiques et financiers lui permettant de le faire. Car il aura alors contredit « Ihdina as-sirata al-mustaqim » alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah farada alaykum al-hajja fahujju » Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez-le donc. Il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » puis manquer de respect à son père, à sa mère. Ne pas entretenir les liens de parenté, ne pas leur accorder la valeur qu'Allah leur a donnée. Subhanahu wa ta'ala, il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et de mentir sciemment et volontairement. Il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et de contracter des intérêts. Il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et de trahir Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière générale. Il ne convient pas de dire « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et de faire ce qui déplaît à Allah et pourtant ne le nuit en rien, mais nuit plutôt la personne qui a désobéi. Car sinon, la personne rejoindrait le nombre de ceux contre lesquels Allah est en colère. Qu'Allah nous en préserve tous dans ce mois béni, ce mois de rahma. Allahumma la tardab alayna. Allahumma la tardab alayna. Allahumma la tardab alayna. Ya Rabbal Alamin. Qui sont ceux qui sont égarés? Les égarés dont Allah a parlé dans Sourate Al-Fatiha sont ceux qui veulent œuvrer. Ils sont peut-être animés par une motivation, une sincérité, mais leurs actions ne sont pas accompagnées de la connaissance nécessaire. Ainsi, ils se trompent dans leur manière d'adorer Allah. Et alors, ils innovent par exemple dans la religion et inventent des choses qui ne relèvent pas de la religion. Ces gens-là sont décrits comme étant égarés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas suivre leur chemin. Mais le seul chemin à suivre, c'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. صراط الذين أنعمت عليهم. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont reçu le savoir, ceux qui se sont instruits. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Voilà l'indice du bien. Remets-toi en question, toi qui récites sourate al-Fatiha, toi qui dis à Allah, صراط الذين أنعمت عليهم, guide-moi dans le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Remets-toi en question avec ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je fais partie des gens qui s'instruisent dans la religion? Si oui, c'est un indice qu'Allah veut ton bien. Sinon, remets-toi en question rapidement, car c'est un indice que le bien n'a pas été voulu pour toi par Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ainsi, les gens se divisent en trois dans cette vie d'ici-bas. Ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, ce sont ceux qui connaissent et qui œuvrent en conséquence. Ceux contre lesquels Allah est en colère, ils sont ceux qui connaissent et délaissent. Et ceux qui sont égarés, ceux qui œuvrent sans pour autant connaître. Tous ces gens-là sont les catégories de personnes. Et la catégorie qu'il faut rejoindre est celle des gens qu'Allah a guidés, subhanahu wa ta'ala. Après cela, le musulman qui accomplit la prière dira « Amin ». Nous disons « Amin » après le récit de suratul Fatiha pendant la prière. Et si nous récitons suratul Fatiha, après, en dehors de la prière, la parole « Amin » ne sera pas à dire. Qu'est-ce que veut dire Amin? Amin, c'est le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'exaucer, comme si l'un d'entre nous disait Allahumma stajib. Voilà un peu le sens de Suratu al-Fatiha. Et les savants ont divergé sur le nombre de lettres contenues dans Suratu al-Fatiha. Certains ont dit que cette surah a à peu près 140 lettres. Et comme le prophète l'a dit, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهَا حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Quiconque récite une lettre du livre d'Allah obtiendra 10 bonnes actions qui lui seront inscrites. Pardon, obtiendra une bonne action qui lui sera inscrite. Et la bonne action en vaudra 10. Si l'on prend le nombre de lettres de 140, et l'on le multiplie par 10, cela nous donne 1400 bonnes actions quand la personne récite suratul Fatiha. Et si la personne qui la récite en comprend l'essence par Allah, les bonnes actions sont décuplées, elles sont multipliées autant de fois qu'elle est comprise, qu'elle est méditée et qu'elle a de l'impact sur le cœur. Personne ne peut se passer de cette surah et il est triste de voir et de constater que très nombreux sont les gens qui ne se servent de cette surah que pour la réciter d'une manière incorrecte et à des occasions incorrectes, comme le fait de la réciter dans les mariages, comme le fait de la réciter en groupe, comme le fait de la réciter pour obtenir un bien de cette dunya. Toutes ces choses-là ne sont pas voulues par Allah, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يفقهنا في الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا واشرح صدورنا ووفقنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous n'oublions pas d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, en la faveur de tout malade, parmi les musulmans, surtout dans cette pandémie, qu'Allah leur accorde une guérison pleine. Subhanahu wa ta'ala.